Les élucubrations d'Hermeline sur Radio 101.1 FM.
C'est dimanche, il est 21h30 à Brest. Vous êtes à l'écoute de Radio U 101.1 FM, Radio U Campus de Brest. Chers auditeurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute des élucubrations d'Hermeline. Et vous, quel est votre souvenir vintage? Un dimanche sur deux sur Radio U 101.1 FM. Alors ce soir, nous débutons la saison 2 des élucubrations d'Hermeline qui s'ouvre avec un nouveau créneau, 21h30-21h, pour encore plus d'intimité, une émission toujours plus intimiste et interactive. Et donc un créneau et aussi un créneau élargi, 1h30 d'émission au lieu de 1h. Pour élucubrer davantage, ensemble, avec mes invités, ici en studio ou à distance. D'ailleurs, à distance, j'en profite tout de suite, normalement Adélie Le Soulde, les déclamateurs qui étaient il y a 15 jours avec moi déjà à la radio. Est-ce que tu es là, Adélie? Est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends parfaitement bien. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Adélie. Je reçois également Hugo Laborie qui est déjà venu en juin, je crois, le 7 juin, enfin en juin. De toute façon, les émissions sont toutes en replay sur le site de radio-u.org, radio-u.org.
C'était autour de ça. Salut, bonsoir.
Donc, mon prof d'impro, qui a été mon prof d'impro à la Comédie du Finistère et qui m'a mise en scène, sur scène, la Comédie du Finistère pour mon spectacle. Mais on va y revenir. Merci, merci Hugo et bonsoir. Merci. Et je reçois aussi un invité de marque parce qu'il a fait l'objet d'une carte dans un tarot. Il fait l'objet d'un personnage de BD dans une BD. Erwan Bouger, c'est ça Erwan?
Mais tout à fait.
Erwan Bouger, qui est caviste à Brest et qui tient la cave à Jaja.
Ah ouais, pas Gaga.
La cave à Jaja, à Brest, à Saint-Martin, pas très loin de la place Guérin, et qui est une figure incontournable de la vie nocturne de Brest. On y reviendra, parce que tu as fait toutes les salles, toutes les place to be de Brest.
Mon Dieu.
Oh là là.
Bonsoir tout le monde.
Alors ce soir, eh bien d'abord, merci chers auditeurs, parce que c'est grâce à vous que donc, le créneau s'élargit. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Donc nous démarrons ce soir la saison 2 et nous clôturons le cycle que j'ai animé cet été sur donc, Radio U 101.1 FM de mise en scène audio, un concept que j'ai proposé et qui a eu pas mal de succès. Mise en scène audio de mon spectacle Hermeline seule en scène, mercredi 9 septembre, donc dans 3 jours, dans 2 jours, mercredi 9 septembre à 20h à la Comédie du Finistère, une salle non moins intimiste et interactive, aux Ateliers des Capucins à Brest. Donc, Ateliers des Capucins, pour ceux qui ne connaissent pas, la plus grande plateforme d'Europe couverte, où il y a donc une librairie dialogue, des restaurants, un espace complètement free pour faire du patin, des sports, du patin roulette. Moi, je suis restée vintage. Le roller skate, je ne connais pas. donc, mon Hermeline seule en scène, mon one woman show, Hermeline seule en scène, c'est mercredi à 20h. Et si vous nous avez suivis, pour ceux qui nous ont suivis tout l'été, avec 4 metteurs en scène qui m'ont mise en scène à l'audio, en radio, eh bien, le principe, c'est « Et vous, quel est votre souvenir vintage ?»« Et vous, quelle est la bande-son de votre souvenir vintage ?» Et ça, ce sera clairement le positionnement de mon spectacle. Mercredi, une bande-son, « Et vous ?» Et alors, je partage mon souvenir vintage, « Et vous, quel est votre souvenir vintage ?» Et ce soir, on va décliner ce principe que j'ai un tout petit peu aménagé. Donc, je vais raconter un souvenir vintage de mon spectacle, qu'on a répété, mis en scène. On débriefera un petit peu, d'ailleurs, plus tard, sur comment ça s'est passé, ces mises en scène différentes, que ce soit à l'audio ou sur scène. Et la question ce soir sera la suivante, non pas « Et vous, quelle est la bande-son de votre souvenir vintage ?» mais « Et vous, quelle est la boisson de votre souvenir vintage ?» puisqu'on reçoit ce soir un caviste qui va nous donner des idées de boissons pour chaque première fois chaque souvenir vintage que l'on va pouvoir aborder ce soir.
Mon Dieu.
Parce que je cherchais à proposer une émission interactive comme j'aimerais que mon spectacle le soit. C'est le même pacte que je propose. Une bande-son, une boisson, un souvenir vintage que je partage. Et vous, quel est votre souvenir vintage? Et vous, quelle est la boisson de votre souvenir vintage? Voilà, le pacte est simple. Est-ce que ça vous va, Adélie?
Moi, c'est nickel.
Hugo?
Ouais, c'est parfait pour moi.
Erwan?
Mais c'est magnifique.
Alors, par quoi on commence? Est-ce que d'emblée, on rentre dans mon spectacle et mon souvenir vintage? Ou est-ce qu'on se présente peut-être les uns les autres? Un petit peu, rapidement?
On peut se présenter, hein.
Alors, bah, Hugo, voilà.
On va commencer par Adélie. Adélie, c'est la première. Honneur aux dames.
Honneur aux dames, comme c'est un concept tellement vintage, honneur aux dames, mais on adore, on kiffe ce qui
est
vintage. On kiffe ce qui est vintage ici sur les ondes de Radio U101.fm. Adélie.
Ouais, bah, je vais commencer par un souvenir vintage. Alors, avant de me présenter, c'est vrai que moi, j'ai un frère qui a 3 ans de plus que moi. Et c'est vrai que dès que ma mère venait nous récupérer à l'école, notamment à l'école primaire, c'était toujours moi qui racontais en premier comment c'était ma journée avant que ce soit mon frère. Donc finalement, je crois que tes invités me connaissent déjà, tu vois. Ils savaient que j'avais envie de parler en premier. Donc pour me présenter, je m'appelle Adélie, donc je suis formatrice en prise de parole en public. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, qu'est-ce que la prise de parole en public? Bah, la voix, elle va présenter régulièrement des blocages, alors soit par le stress, soit parce que les pensées s'embrouillent ou que la voix, elle est monotone. Et moi, je vais venir travailler tout ça pour que dans notre quotidien, tant professionnel que personnel, bah, que la voix ne soit absolument plus à aucun moment un blocage. C'est ça le cœur de mon métier.
Peut-être, pour commencer, chère Adélie, pourrais-tu, ou Hugo, je ne sais pas, mais pourrais-tu nous apprendre à respirer ou nous donner une petite technique pour que tout de suite, on explique, avant de prendre le en quoi respirer, une technique de respiration, en quoi est-elle nécessaire pour une prise de parole réussie? On peut peut-être faire un petit exercice audio?
Bah ouais, moi si tu veux, je peux expliquer les 3 différentes respirations et peut-être que Hugo peut expliquer la technique si ça vous va.
Ah bah, Hugo...
Moi j'en ai une seule, mais après ouais, je pense qu'on a plusieurs toi Adélie, mais après ça reste de mettre ses 2 mains sur le bas-ventre et de se mettre à l'avant d'une chaise et d'inspirer pendant 5 secondes, on bloque la respiration et on expire le plus longtemps possible. Moi je le fais comme ça avant les spectacles, après chacun a sa technique, je sais pas si tu me rejoins sur ça Adélie, mais...
Ouais, moi j'aime beaucoup plutôt la technique du livre, parce que sur la chaise, c'est souvent, si ça arrive, c'est facile. La technique du livre est plus simple, c'est-à-dire que tu t'allonges, alors tu peux t'allonger par terre, sur un canapé, un lit, chacun voit son confort, tu vois, et tu mets un livre un peu lourd sur ton ventre, et forcément, ça va être beaucoup plus facile, parce que le poids du livre va t'obliger à être forcément dans une respiration thoracique, ventrale, parce qu'à partir du moment où t'es dans une respiration thoracique, ton livre, il tombe, et tu le vois tout de suite. Donc c'est vraiment un moyen visuel pour être sûr, tu vois, que ta respiration, elle est bien basse.
Ok.
Voilà. Donc juste pour info, on a 3 types de respiration. La respiration haute, c'est ce qu'on va appeler la respiration claviculaire. C'est la respiration, je sais que là, on a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, c'est dès qu'on fait une crise. Voilà, dès qu'on rentre en crise de panique, c'est la respiration claviculaire qui va se mettre en place parce qu'on va avoir beaucoup d'échanges qui vont se mettre entre l'air et l'organisme et ça va vraiment mettre le corps dans un état de crise parce que ça va très vite, parce qu'il y a peu de chemin à faire pour mettre de l'air dans notre organisme et l'enlever. La respiration thoracique.
Mais comment, alors, est-ce que tu peux expliquer à chaque fois comment, dans la foulée de ce que c'est, de comment ça marche?
Ouais.
En l'occurrence, moi qui panique assez de manière impromptue, sans m'en rendre compte, comment je peux gérer la situation? Par exemple, dans un ascenseur bien clos, comment gérer cette respiration claviculaire?
En fait, cette respiration claviculaire, elle... faut juste savoir qu'elle est là. Tu vois, c'est très impressionnant, une crise de panique. Tu sais que ton thorax se soulève énormément. Donc, dès que ton thorax se soulève énormément, parce qu'en fait, tu vois, ta cage thoracique, elle protège tes poumons. Donc, plus tu vas utiliser seulement la partie haute de tes poumons, plus c'est cette partie-là qui va bouger. Tu vois, déjà, tu sais que c'est ça qui arrive. Et une fois que tu as compris que plus ton thorax, plus ça bouge, plus c'est haut, plus les échanges sont rapides, et qu'est-ce qui se passe? Plus c'est rapide, plus ton rythme cardiaque s'accélère, et plus tu mets ton corps dans un état de crise. Et ça, pour l'enlever, on a seulement une astuce. Il n'y a qu'une astuce qui fonctionne, et ça tombe bien, c'est le cours que tu es en train d'écrire, réécrire aujourd'hui, c'est la respiration ventrale. Pourquoi il n'y a que la respiration ventrale qui fonctionne? Parce que tu as un nerf qui va, si tu veux, partir, qui s'appelle le nerf vague, d'accord? Il va relier le cerveau au cœur et au poumon, et il n'y a que lui qui va être le frein du système nerveux. Et c'est ça qui va te permettre de dire en fait à ton corps, en fait, je suis peut-être pas en danger, j'ai pas besoin de mettre l'état d'alerte dans mon corps, et la respiration ventrale va petit à petit, au bout de 90 secondes, donc 1 minute 30, 2 minutes, faire en sorte que ton corps se remette dans un état de sécurité. Et tout ça, c'est grâce à la respiration ventrale qui va, en fait, si tu veux, aller jouer sur ton système nerveux.
Alors, est-ce
et
que...
Il y a tout ça.
Ouais. Ok, respiration ventrale. Hugo m'en avait parlé aussi sur scène. Est-ce que... Mais il en avait parlé comme ça, lors d'un cours d'impro, en pensant sans doute que chacun connaissait la respiration ventrale. Moi, j'avoue que j'ai découvert la... Je l'ai déjà dit lors d'une émission, bah peut-être avec toi, Adélie. J'ai découvert la respiration... Mmh. J'ai l'impression, en tout cas, d'avoir découvert la respiration ventrale en prenant des cours d'éloquence avec toi et au contact d'Hugo. J'ai toujours eu l'impression, moi, de respirer par le thorax. Et jamais par le ventre. Je pense que j'ai vécu 90% de ma vie en apnée. Et je voulais savoir si ça marche en situation de... Ça, c'est la question pour Erwan. Ça marche en situation de coma éthylique.
On démarre fort ce soir, chers auditeurs.
Ça marche, la respiration claviculaire en concert ou quand on se sent oppressé par la foule, dans la fosse?
La respiration ventrale?
Oui, la respiration ventrale, pardon.
Non, alors je te raconte un autre souvenir vintage. Je ne sais pas si les gens connaissent Rammstein, le groupe de métal allemand.
Si, oui, bien sûr.
Faut pas être dans la fosse. Moi, j'ai ma mère qui est plus petite que moi. Elle fait 1m60 et quelques. Et... quand Rammstein a fait baisser le rideau, comment te dire, ma mère a commencé à avoir une grosse crise parce que ça partait dans tous les sens, c'était le bazar. Donc quand c'est comme ça, tu pars. La respiration ventrale ne sert à rien. Il faut que tu ailles loin, loin de cette agitation et de tout ça. Il y a des moments où il faut juste fuir. Là, non, dans la fosse, tu vois, il fallait juste fuir. Donc quand tu es dans un festival de ce genre de choses, la respiration ventrale, ça te sert à rien. Par contre, si tu es en sécurité, tu peux utiliser la respiration ventrale pour ne pas te casser les cordes vocales. Ça, par contre, c'est génial.
Ok, alors j'en profite pour partager plusieurs souvenirs vintage, mais que je vais résumer en un seul. Le concert de Cure, j'y étais. Le concert de David Bowie à la Courneuve, j'y étais. Le concert de David Bowie au Parc des Princes, j'y étais. Le concert de... Bon, je ne me souviens plus, mais j'y étais. Mais dans le camion des pompiers. Parce que, oppressé par la foule, je n'ai jamais pu m'en sortir que autrement que dans le camion des pompiers. Alors, j'aurais bien aimé quitter la foule, la fosse ou je ne sais quoi, mais ça va trop vite quand tu paniques, quand tu es oppressé. Ça va trop vite, tu t'effondres.
Adélie. Là, il faut un SAM. Hein. Ouais,
comment
bah là, moi, j'ai pas... Il faut un SAM, il faut quelqu'un qui te sorte parce que t'as... Enfin, là, quand c'est trop fort, tu sais, il y a des personnes, quand elles font des crises de panique, le seul moyen pour arriver à qu'elles descendent de la crise de panique, c'est quelqu'un qui leur dit « Ok, tu regardes bien dans les yeux » et qui va guider la personne pour le faire. Mais dans un état de concert où c'est vraiment extrême, parce que t'as la musique, ça va dans tous les sens, t'as trop d'informations.
Mais oui.
Forcément, ton cerveau est disjoncte. Et là, malheureusement, c'est génial, hein, la respiration ventrale, mais c'est pas magique. Si tu t'es pas entraîné ou si tu ne l'utilises pas dans ton quotidien, que ce soit dans le monde du théâtre, du chant ou de l'éloquence, ça ne va pas venir instantanément te guérir. Il n'y a pas non plus un côté magique.
Bon, les pompiers, c'était pas mal. Hein. Je garde une
en
bonne...
En fait, les pompiers, c'était une bonne idée. Les pompiers, ils servent à quelque chose et en règle générale, c'était des bons gars, tu vois.
Oui, franchement, peut-être inconsciemment, on va savoir. Avec le recul, peut-être. Hein. Inconsciemment, je provoquais, tu vois, la rupture pour aller dans le camion des pompiers parce que finalement, j'ai dû m'habituer très vite. Alors, Erwan,
oui.
Avant Edeli, pardon, mais avant de, d'aborder les deux autres techniques de respiration, Erwan, donc je vous le disais en introduction, chers auditeurs, est un homme, une figure de la nuit brestoise, qu'elle soit underground ou non. Tu as participé à toutes les scènes, tu étais là en fait.
C'était avant,
en tant que. Ouais, avant. C'est ça, c'est vintage. C'est ça le concept, hein, c'est vintage, c'est avant.
Moi, je suis un chat, j'ai eu plusieurs vies.
Donc, t'as été au Vauban, au bar du Vauban,
au Quatre Vents, à la Carène.
Mais qu'est-ce que tu faisais? Parce que, alors, le Vauban, donc c'est un peu la cigale de Paris. Pour donner un équivalent, la cigale, une petite salle.
Ouais, alors en fait, le Vauban, c'est incroyable. Parce que c'est tout et rien, c'est du grand n'importe quoi.
C'est un hôtel, c'est bar, restaurant, salle
c'est
de concert.
C'est hôtel, c'est bar, c'est restaurant, tu te retrouves habillé en pingouin, mais c'est très rock'n'roll. Première fois de ma vie, au bout de 30 ans de bar, qu'on me fait mettre une cravate, un petit costume. Donc ça fait très chic. Quand t'arrives, tu connais pas le Vauban, tu vois les serveurs, waouh. Mais en fait, c'est hyper rock'n'roll, quoi. Tu peux avoir un concert punk en bas, et en même temps, en haut, avoir un dîner d'affaires avec je sais pas combien de personnes. C'est un endroit incroyable.
Et donc tu étais...
J'étais responsable au Vauban, au bar.
Au bar.
Mais c'est assez usant.
Alors j'aimerais bien faire le lien parce que les Quatre Vents, donc pour ce que je sais, c'est un restaurant sur
maintenant,
le port.
Maintenant c'est un restaurant.
Ah, bon,
à l'époque c'était les petits Quatre Vents. C'est-à-dire que c'était pas l'énorme truc actuel.
C'était une salle de concert ou...
Non, c'était un pub.
Un pub,
mais tu divises par deux la superficie. Ça faisait à manger le midi et c'était très très festif le soir.
Et donc là pareil, le bar.
Le bar. Ouais.
Et la Carène, donc la Carène pour.
Les concerts.
Alors, pour les Brestois, donc la Carène, je ne présente pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Brest et la Carène, on va dire que c'est un peu un Zénith, un Bercy ou... Enfin, c'est une des futures salles où je pense me produire avec mon spectacle.
Ouais, la Carène, en fait, par rapport au Vauban, le Vauban, en fait, quand tu descends dans la salle en bas, tu fais un bond dans le temps. C'est-à-dire que tu descends 40 ans en arrière. Il n'y a rien à bouger, rien à changer.
C'est double vintage.
Une certaine âme, ouais.
C'est extraordinaire. Tu as des trucs qui sont en place depuis 50 ans. Tu ne sais pas où tu as atterri, en fait. Moi, je me rappelle, j'avais des potes qui étaient venus me voir quand je bossais au Vauban, des potes de Lorient. Ils m'avaient dit, mais le samedi soir, c'est comment la boîte de nuit au Vauban? Je dis, venez, vous verrez. Je ne peux pas décrire. Et quand on est rentré, ils m'ont dit, en fait, on avait l'impression d'assister à un mariage des années 70 sans connaître personne. Ils m'ont dit, c'est super.
Ah bah ouais, c'était le vintage de ton époque.
Ouais.
C'était ça. Et donc, tu étais également au bar?
Ouais. Bar en haut, bar en bas.
Ok. Et est-ce que tu as eu besoin de respiration ventriculaire, ventrale, claviculaire, ventrale ou je ne sais quoi?
Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui n'est absolument pas stressé.
Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est...
Moi, je suis...
C'est formidable.
Voilà, on finit la journée, comme je dis, on verra demain. Ce qui est à faire est à faire. Donc, je n'ai pas eu de... Désolé, mais je n'ai pas eu besoin de... Enfin, à ce jour, de respiration
ventrale.
Ventrale ou autre.
T'es un peu comme Scarlett O'Hara, demain... est un autre jour.
Mais tout à fait. Finissons la journée déjà.
Voilà, très bien. Alors Adélie, je t'ai interrompue. Oui. Nous pouvons reprendre la deuxième respiration que tu voulais expliquer.
Oui. En fait, si tu veux, la respiration thoracique, moi, je n'aime pas trop parce que c'est une respiration où ta colonne d'air, elle est encore coupée. Tu vois, elle n'est pas optimale. Et moi, j'ai envie d'avoir une voix qui est forte, de pouvoir bien maîtriser l'air que je mets au niveau de mes cordes vocales. Alors, tu vois, c'est très relié au corps. Et la respiration thoracique, en soi, elle était pratique pour une seule chose. Imagine que tu as l'état de nature, tu as un crocodile en face de toi. Il faut que tu puisses pouvoir courir. Donc, il faut beaucoup d'air. En même temps, il faut que tu puisses en renvoyer. Et donc, la respiration thoracique, tu vois, le sprint, ce serait la respiration claviculaire. Et une course rapide, mais assez longue, serait la respiration thoracique. Et moi, j'aime pas trop parce que la respiration thoracique, elle est au-dessus du diaphragme. Et le diaphragme, moi, j'ai besoin qu'il bouge, j'ai besoin qu'il fasse des choses dans le corps. Et voilà, donc c'est pour ça que j'aime pas trop cette respiration-là, parce qu'elle me permet d'être en apnée, et l'apnée, c'est ce qui me permet de faire des « e », c'est ce qui me permet de faire des « du coup », des « voilà », de parler très vite, de parler de manière monotone. Et ça, moi, je veux pas en tant qu'oratrice. Et je pense que dans le théâtre, on n'aime pas trop ça non plus.
Mmh.
Et c'est pour ça qu'on va aller descendre cette barrière avec le diaphragme. Et là, on arrive au niveau du ventre. Et là, c'est génial parce que tu peux apprendre à propulser ta voix avec la respiration ventrale. Et la respiration ventrale, c'est la respiration des chanteurs, des gens du théâtre, c'est la respiration des personnes qui font du yoga aussi ou de la sophrologie. C'est vraiment notre respiration, en fait, de base, qui est innée. C'est-à-dire qu'un bébé, il a la respiration ventrale. C'est pour ça qu'un bébé, il peut réveiller ses parents à 3h du mat, 4h du mat, 5h du mat et toute la nuit, tu vois.
Mais mettez-le sur scène maintenant, vos bébés. Voilà ce que vous pouvez faire de vos bébés. Mettez-les sur scène. Amenez-les dans un cours d'impro pour bébé de Hugo Laborie.
Voilà.
Tu vas t'amuser.
Hein, et voilà. Et la respiration thoracique, on va dire, elle remonte pour tout le monde à cause des prises de conscience et des peurs. Donc, à partir du moment où tu sais que tu vas mourir, à partir du moment où si tu sais que ta note, t'as 0 sur 20, tu vas finir sous un pont, tous ces trucs-là font que la respiration, elle remonte et personne ne rééduque la respiration pour qu'elle redescende, sauf si à un moment donné, dans ta vie d'adulte, tu rencontres les planches ou tu rencontres un prof d'oratoire ou n'importe quoi qui fait que tu vas devoir aller chercher cette respiration.
Très bien.
Enfin, du coup.
Alors, en revanche, bon, tu donnais l'exemple du crocodile, mais parfois il arrive, alors c'est beaucoup dans les séries et au cinéma, mais c'est quand même inspiré de la vraie vie, ces histoires-là. Face à face avec un loup, on se carapate et on utilise une des techniques de respiration où on le regarde bien droit dans les yeux et on pactise.
Dans la nature, normalement, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la fuite. Ensuite, c'est le combat. Et ensuite, c'est le fait où tu te laisses mourir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va encore suivre, nous, les humains, malgré notre évolution, ces 3 étapes innées. Alors, si tu regardes un documentaire animalier, si tu as une antilope qui se fait chasser par un prédateur, bah, c'est toujours ce qui se passe. D'abord, elle essaye de fuir. Si la fuite ne fonctionne pas, là, après, tu vas au combat. Mais le problème du combat, c'est que tu as une chance sur 2 de perdre ou une chance sur 2 de gagner. Bon, une chance sur 2, c'est un peu trop la galère. Donc, dans tous les cas, tu préfères fuir parce que tu as 100% de chance de réussir si tu arrives à avoir ta fuite de survie. Donc, je pense que non, on doit encore être programmé comme ça, dans cette notion de survie.
Très bien. Et enfin, pour terminer, une troisième et dernière technique de respiration.
Non, il n'y a que celle-là, il y a claviculaire, thoracique et ventrale.
Ah ben voilà.
Après, il existe plein de manières de respirer et de mettre la respiration ventrale en place. Mais non, t'as que ces 3-là. C'est déjà beaucoup en toi. Hein.
Bah oui, c'est bien. C'est beaucoup. Et j'espère que nos auditeurs vont pouvoir éprouver ces techniques et les mettre en application dès ce soir. Parce que c'est là. On est en plein milieu du Crous de Brest. Et quand je suis arrivée tout à l'heure, je voyais tous les étudiants qui arrivaient avec leurs sacs, leurs valises. C'est la rentrée pour eux. Je pensais à ceux qui avaient des crises d'angoisse loin de leurs parents. Chers auditeurs du Crous, hein, si vous nous écoutez ce soir sur Radio U 101.1 FM, c'est le moment ou jamais de tester les techniques d'Adélie.
La meilleure technique que je puisse donner, c'est toujours que l'expiration soit plus longue que l'inspiration, c'est-à-dire de compter dans sa tête et de compter jusqu'à 4 pour une inspiration et au moins jusqu'à 6 pour une expiration. C'est un ratio. Et plus l'expiration est longue, et plus elle est dans un sens anti-stress. C'est la petite astuce du jour.
Très bien. Bon, eh bien, on en sait davantage pour ceux qui veulent se professionnaliser dans la pratique oratoire, sur scène, musicien, chanteur. On a déjà quelques bases. Hugo, quelque chose à rajouter peut-être ?
Non, c'était très bien. Merci Adélie. C'est fantastique. C'est le bon moment.
Bah oui. Tout de suite.
Là, on parle la même langue, c'est pour ça qu'on s'apprécie beaucoup.
Alors ça va être à moi. Hein. Je vais commencer un fragment de mon spectacle. Donc je me souviens plus du tout ce qu'on a abordé cet été. J'ai pas relu ni réécouté volontairement. De toute manière, le sujet de ce soir et de mon spectacle, c'est les premières fois. Alors voilà, on y va. Et vous m'interrompez, alors Adélie, Hugo, Erwan, vous m'interrompez quand vous voulez. Pour la technique, pour la respiration, pour le vocabulaire, pour je ne sais quoi par rapport à mon spectacle, mais également pour vos souvenirs vintage que vous voulez raconter, n'hésitez pas, parce que c'est le but de l'émission, c'est cette interactivité. Quant à Erwan, au moindre souvenir, à le moindre vin, la moindre bière, le moindre alcool... Et également la boisson sans alcool
mais tout à fait.
Qui te vient en tête.
Je le balance comme ça pendant ta phrase.
Mais carrément, carrément.
Tequila.
Alors, tequila. Allons-y, pourquoi tequila?
Parce que ça fait partie de... Je bois très très peu d'alcool fort, mais j'aime bien la tequila frappée.
Ah bah écoutez, je vais commencer par ce souvenir vintage-là. C'est dommage parce que je ne connais pas par cœur les numéros de page.
Bah, j'ai dit ça au pif. Hein.
Mais alors, du coup, tu dis tequila. Alors, tequila, c'est à base de quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on... On mixe avec quoi la tequila?
Oh, faut pas la mixer.
On mixe avec rien?
La bois pure, petite tequila ambrée, un petit peu de Schweppes. Vraiment en shooter. Ça donne un petit coup de fouet.
Ah, je ne trouve pas du tout la page que je cherche. La tequila.
Et on respire bien.
Oui, voilà. Adélie.
Entre chaque.
Vraiment que tu cherches ta page, peut-être rappeler que l'abus d'alcool est interdit ou je ne sais plus quelle était ta phrase.
Ah, avec modération.
Tout à fait.
Donc, là, on va être mal barré parce que si elle me demande à chaque fois de lui sortir un truc...
Non, je vais le faire. On est sur l'antenne de Radio U 101.1 FM et j'en profite donc pour vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer systématiquement avec modération, les amis. Mais bien sûr, bien
ouais,
sûr, bien sûr. Comment ?
C'était le petit rappel, comme on en avait parlé.
Mais oui, parce que j'ai appelé la chef de Radio U pour savoir si on pouvait parler de tout en matière de boissons sur les ondes. Et elle m'a dit que oui, à partir du moment où on rappelait les petites consignes de sécurité. Alors, je ne trouve pas, évidemment, le texte très précis que je cherche. Hugo, peut-être un souvenir vintage ?
Un souvenir vintage. Après, là, c'est un truc un peu personnel, mais...
Très bien, écoute. Mais on est là pour ça, hein. C'est intimiste.
C'est intimiste. Quand j'étais tout petit, maintenant, ça me suit encore parce que j'ai 31 ans, mais j'ai jamais eu d'odorat.
Oh, merde.
Et je suis... le terme serait anosmique. Et je l'ai découvert... au CE2.
Ah oui.
Parce qu'il y avait bien des sûr. Tests à faire à l'école primaire. Et en fait, j'avais triché. J'avais vraiment ouvert les yeux tout doucement pour essayer de repérer. Il y avait du café à sentir, mais c'est de la poudre, quoi. C'était des petites poudres à sentir, des épices. Et je m'en suis rendu compte après avec les années. Et c'est quelque chose que j'ai été voir, en tout cas un spécialiste pour ça, qui m'a dit que si... on faisait une opération, parce qu'il y a une possibilité de faire une opération. Il y avait une chance sur deux qu'on touche un nerf et que ça aille plus loin. Mais du coup, c'est quelque chose qui me suit depuis plusieurs années et je ne sens pas les odeurs. Donc ça veut dire que vraiment, si quelqu'un sent très mauvais, il n'y a vraiment pas de souci. Enfin, je m'adapte à tout ça. Il n'y a pas de souci.
Il faut savoir qu'on n'est que deux dans la salle.
On n'est que deux dans la
donc,
salle.
Donc en fait, il est en face de moi.
Ouais.
Je vous rassure, je sens bon. Je le sens toujours. En fait.
Mais en tout cas, voilà, ça me suit depuis pas mal d'années. Après, je ne sais pas, d'après certains spécialistes, il y a des fois, quand il y a un sens qui manque, il y a
un autre
sens qui se développe. Mm-hmm. Après, je crois que c'est très léger, quoi. C'est peut-être au niveau de la vue,
le
je
goût.
Sais pas. Ouais, le goût, il disait que c'était, il y avait 15% en moins. Moi, en tout cas, j'ai 15% en moins.
De goût à cause de l'odorat.
À cause de l'odorat, ouais. C'est un peu d'un...
C'est lié, je pense, ouais.
Je ne vais peut-être pas avoir autant de plaisir. Enfin, je vais quand même manger. Si c'est un barbecue, je ne sais pas, ou une odeur de pain au chocolat... d'une boulangerie le matin, je vais manger, mais je vais pas être attiré en fait par ces odeurs là, quoi. Voilà. Est-ce que ça va ou pas?
Et ça doit vachement jouer. Mais ça doit vachement jouer sur tes choix d'aliments.
En vrai, pas forcément.
Pas des aliments qui non. En fait, c'est vraiment zéro odorat.
Zéro odorat, ouais. Et ça, de ce que j'ai cru comprendre, c'était lié à mon grand-père.
Ah, c'est héréditaire.
Ouais. Qui avait pas et qui faisait beaucoup de nettoyage, je sais pas, il faisait tout à la Javel et puis il s'en rendait pas compte, quoi. Donc ça peut suivre ou sauter une génération aussi, parce que mes parents ont l'odorat, quoi. Donc finalement...
Alors moi j'ai découvert ça pendant le Covid, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été atteintes du Covid, dont l'odorat
a disparu
et qui ne l'ont pas retrouvé depuis. Bon, on pense à vous, chers auditeurs.
J'ai foutu une bonne ambiance.
Oui, chers auditeurs. Mais c'est pas grave, puisqu'il y a un autre sens qui s'est développé.
Mais c'est ça.
On perd pour gagner. Alors, un petit bout de... Alors, on va commencer donc par la boisson, ouais. À consommer avec modération, je le rappelle.
Toujours.
À présent, silence s'il vous plaît. À présent, c'est l'époque Belig. On en est page 23, donc c'est les prémices du spectacle. Hein. À présent, c'est l'époque Belig. Petite Isabelle en breton, petite Bella. Parce que ma mère, autrefois, avant de se fiancer, travaillait au rayon des poupées Bella aux Dames de France à Brest. C'est aussi ma période Pacha Club, Bilitis, président les discothèques d'ici. Parce que maintenant, on habite à Rueil-Malmaison. Dans peu de temps, je passerai mes nuits chez Régine, Castel, Rive Gauche, Champagne à discrétion, table réservée. Entre-temps, je vivrai ma période Palace, Globo, Folie Spigale, LGBTQIA+. En attendant, c'est en banlieue, au Jet 27, au Malibu et au Belize. Le matin, forcément, j'ai besoin de récupérer.
Oh, oh, je baille. Oh, je travaillerai toujours assez tôt.
Je ne vais pas dévoiler davantage. Mais c'est moi qui aborde. Le Jet 27, le Malibu, le Belize. Qu'est-ce que ça traduit de boire ces boissons-là? Moi, tu vois, je les ai assimilés.
C'est le début.
À... Ben oui, voilà. Je les ai assimilés, assimilés à ce... C'est une période très précise
c'est
de mon
périodes,
existence.
C'est les périodes, effectivement, moi j'ai vu ça quand j'avais, allez, on va dire, 18, 20 ans, tu vois. C'est des trucs assez doux.
Ouais, c'est à peu près.
C'est des trucs qui coûtent le moins cher aussi à acheter.
Ah bon?
En grande surface, à l'époque, ouais. Si, si, c'est ce qu'il y avait de moins cher. T'avais ça, t'avais le martini blanc. Enfin, c'est des trucs pas agressifs, en fait. Tout en douceur, ton palais, c'est comme les vins. En fait, quand tu te mets au vin, si tu bois du blanc, la plupart du temps, les gens, ils prennent du blanc sucré. Ouais, c'est des blancs très fruités. Plus ils avancent dans le temps, plus le palais se forme. Et le rouge, c'est pareil. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, je connais rien en vin, j'aime pas trop le vin, il faut quelque chose de très doux. » Et ça, c'est les gens qui commencent à apprendre, en fait. Le palais n'est pas formé encore. Et c'est cette partie d'alcool, là, que tu dis, moi, je l'ai vécu aussi. C'était, il y avait le Peach Boys, si je me rappelle. C'était une liqueur de pêche qu'on achetait en grande surface.
Ah, mais il y avait la Manzana.
La Manzana, bah, il y avait la grande panne. Alors, après Manzana, moi, je pense que j'étais...
C'était de la pomme, liqueur de pomme, ou je sais
ouais,
pas, c'était
ouais.
ça
Ouais, mais moi j'étais déjà en train de bosser.
Ouais, tu étais déjà
années.
Au champagne là.
Et je suis né sous Pompidou, tu vois, souvenir vintage. ça fait mal.
En tout cas, j'ai un souvenir de vacances. Alors, un souvenir vintage qui ne fait pas partie de mon spectacle, mais comme on se dit tout ce soir, chers auditeurs. Donc j'étais avec ma copine Géraldine, on est parti au Club Med à Corfou. Notre premier voyage... ensemble et mon premier voyage tout court au Club Med, dans un club de case à Corfou. Et on a tellement bu de Belize, tellement, qu'on est arrivé, je ne sais pas, on a dû arriver un vendredi ou un jeudi, je ne me souviens plus exactement, on est resté qu'une semaine, mais on a tellement bu de Belize que le samedi, ou peut-être le dimanche, il n'y en avait plus. Et comme il ne retournait pas sur le continent chercher, se réapprovisionner avant le mercredi suivant, il n'y a plus eu de Belize, en fait, de toute la semaine.
C'est hyper addictif, le Belize.
Merci, merci, mais oui, mais remerciez-moi si vous avez besoin que je vide vos bouteilles, n'hésitez pas.
Et sincèrement, le lendemain, tu aurais pu en boire? Parce que c'est hyper écœurant, au bout d'un moment.
Oh, ben à l'époque, je ne buvais que ça. Hein.
Moi, j'ai un souvenir à Brest avec la maman de mes enfants. Enfin bref, on avait fait une soirée, et c'est pareil, ils fermaient le bar et ils servaient le dernier verre. Et comme j'avais travaillé dans ce bar-là, le barman, très sympa, nous a servi deux pintes en plastique de Belize.
Mais c'est vrai que les barmans, à l'époque, servaient très volontiers en fin de soirée, comme ça, les derniers.
Mais là, 50 centilitres chacun de Belize, ouais, après une soirée passée à ça, c'était un peu écœurant.
Comment ça tapait hein.
Ah bah ouais, c'est un peu lourd.
Mais quand j'ai changé de période donc d'alcool, je n'ai plus jamais rebu de Belize, de Jet 27, de Malibu, de Manzana, de rien de tout
moi,
ça.
Je bois plus non plus.
Et les alcools, je...
Tu bois plus d'alcool, toi, Isa?
Moi, j'en bois plus du tout, même. Je bois même plus de vin. D'ailleurs, on ne se voit plus à la cave.
Je ne sais pas qui tu es.
Non.
Mais je ne sais pas ce que je fais ici. Je suis arrivé par hasard, j'ai rien compris.
Et c'est le multivers, quoi?
Je ne bois plus du tout que de l'eau. De la santé.
J'ai un super cidre désalcoolisé, zéro alcool.
Un vin... Alors, bah... Allons-y. J'ai voulu essayer parce que, en fait, c'est exactement un autre souvenir vital. C'est exactement comme quand j'ai arrêté la cigarette en novembre 1998. J'ai arrêté parce que, on se dit tout encore une fois ce soir, on y va. On est cash, très intimiste et interactif. J'ai eu une grève des gencives parce que je fumais beaucoup trop. Ça m'a tellement fait flipper, j'ai tellement mordu au sang le médecin qui m'a fait ma greffe. Des gencives, ça a été rédhibitoire. Je n'ai plus jamais fumé de cigarette de ma vie. En novembre 98, j'ai arrêté. Et donc, je disais ça pourquoi ? Parce que nous parlions de...
De lapin qui sautait dans le champ.
Pourquoi j'ai arrêté l'alcool et j'ai arrêté la cigarette pour les mêmes raisons. Bon, la santé, évidemment. Mais aussi... je les ai arrêtés pour la santé, mais ce qui m'a le plus manqué, et ce pourquoi j'avais envie depuis longtemps d'arrêter, en fait, mais j'y arrivais pas, le geste de la cigarette, c'est ça qui m'a manqué. Et je ne savais pas où mettre mes mains pendant longtemps. Je ne savais pas quoi faire de mes mains quand j'étais en soirée ou en discothèque, sous la boule à facettes. Et pareil, dans les restos, j'adore tenir un verre de vin. Et du coup, je tiens des verres à eau qui sont beaucoup moins élégants, beaucoup moins glamour.
Tu peux prendre un joli verre à eau.
Oui, bah c'est ce que je fais. Je me donne l'illusion de, ouais. Tu vois, d'être...
Non, mais t'as pas mal de choses maintenant qui sont... Pas le... Alors, le vin sans alcool, sincèrement, moi, ça fait des années que j'en cherche. C'est vraiment pas au point. Si d'ailleurs quelqu'un en connaît un très bon, je suis preneur. Mais t'as plein de super produits maintenant. Et quand je rigolais pas en parlant du cidre. En fait, c'est un procédé, mais tu vois, ce cidre, il a zéro alcool. Il a été désalcoolisé et t'as vraiment le goût du cidre. Et ses frères.
Hugo, une petite anecdote sur le sujet de l'alcool.
Au niveau de l'alcool,
si t'as pas de goût,
non, l'odorat. On peut tout tester. Non, après, c'est pas forcément des très bons alcools. Il faut le dire. Et je pense que ceux qui nous écoutent, peut-être ceux qui sont à la fac, on cherche pas vraiment la qualité, quoi. On cherche plutôt ce qui va nous faire monter très vite en l'air. Après, c'est surtout passer un bon moment et d'essayer de voir. Je pense que c'est plutôt avec l'âge qu'on a envie vraiment de tester quelque chose de meilleur en goût, quoi, comme un vin ou comme tu dis, un whisky. Quoi, un whisky peut-être qui est pur, mais vraiment quelque chose, un vrai whisky. Quoi. Parce que moi, ça, c'est plutôt des whisky coca. Les whisky coca, le whisky, on ne va pas te mettre vraiment un bon whisky, c'est un mauvais truc. Et après, là, moi, je suis plutôt dans... Des fois, j'aime bien les bonnes bières. Mais vraiment des bonnes bières vraiment du coin, parce qu'on a quand même pas mal de bons
Il y a des
de bonnes brasseries en fait ici, donc pourquoi pas, tu vois, ça sur ça je suis une bière blonde d'un bon brasseur, je dis oui.
Passe me voir, j'ai ce qu'il faut.
Ok, donc la cave à Jaja, rue Danton, en face de l'église, en plus comme ça tu peux
alors, c'est un signe, oh là là.
Dans un de mes romans je raconte que un jour je suis rentrée dans l'église de Sainte Rita. La fausse église Sainte Rita de Paris, celle qui était dans le 15e. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire de l'église Sainte Rita, mais il y avait une chapelle à Paris dans le 15e qui un prêtre, c'était, enfin, une personne s'est autoproclamée prêtre et avait fait de cette église une chapelle Sainte Rita. Or, c'était pas du tout la chapelle Sainte Rita. Elle est donc en face du Moulin Rouge à Paris. Et donc, j'étais dans cette chapelle Sainte Rita qui m'a interpellée parce que je ne connaissais pas. Et en sortant, la femme du prêtre, donc qui n'était pas un prêtre, avait dressé une table.
Était-ce une femme ?
Alors, en tout cas, elle avait dressé une table avec plein de produits dérivés de Sainte Rita. Alors, décidément, aujourd'hui, j'ai pas toute ma tête, parce que de quoi on parlait à l'instant ? Pourquoi je vous raconte ce souvenir vintage ?
J'ai l'impression d'être avec Dory, là.
Non, mais je dois avoir des absences ce soir. C'est peut-être le stress.
L'église Saint-Martin.
Oui, ouais, c'est voilà. L'église Saint-Martin. Ouais. Et je raconte dans mon souvenir vintage que j'achète une cuvée de champagne Sainte Rita. Et donc, le soir, je rentre. Et à ce moment-là, j'étais en train de mener une enquête judiciaire assez éprouvante. Et j'en suis à l'étape, au moment où je rentre dans cette église et où j'achète cette cuvée Sainte Rita, où mon enquête piétine. Et donc ce soir-là, je rentre, je vois cette bouteille Sainte Rita, je la débouche et je la bois. Alors ça, c'est dans le roman, hein, le personnage du roman, le personnage que j'ai fait de moi pour le roman. Ouvre la bouteille Sainte Rita et je termine en disant que ce pauvre personnage termine ivre, complètement par terre, ivre et pieux, parce qu'elle est en train de lire en même temps la neuvaine Sainte Rita qu'elle a achetée avec la... Donc ivre et pieux, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, tu vois, que tu t'es installé en face de l'église, ivre et pieux.
Mais tout à fait, ça une rédemption. Que pour ça d'ailleurs. Si tu savais,
la rédemption
si tu
immédiate.
Savais la vraie raison pour laquelle je me suis installé là, franchement. Tu...
Bah, vas-y.
Je commençais à te la raconter tout à l'heure. Ouais. En fait, c'est tout simple. Je vendais du vin sur les marchés. Un soir de piste avec madame, on passe devant ce local-là en rentrant et c'est marqué à louer. Je note le numéro, je le mets dans mon blouson et j'en reste là. Et 4 mois après, je trouve un numéro de téléphone dans mon blouson. Je me dis, c'est qui ? J'appelle. La personne me dit, oui, bonjour, vous êtes qui ? Je dis, bah, je sais pas. J'ai votre numéro, je sais pas qui vous êtes. Il me dit, bah, moi non plus. Et on raccroche. Et 10 minutes après, il me rappelle, il me dit, mais vous avez pas vu mon numéro sur un local à louer ? Et là, je fais, ah ouais. Et en fait, ça s'est fait comme ça, à l'arrache.
Ah, c'est un chouette souvenir vintage, ça.
Ouais, c'est pas mal.
Ouais.
J'avais pas un rond en plus, faut le savoir. J'ai emprunté des meubles à un brocanteur, il n'y a même pas d'enseigne quand j'ai ouvert.
Et d'ailleurs, ça rejoint le thème de mon émission. C'est la première fois que tu deviens caviste à ce moment-là, alors.
Oui.
Plus ou moins le hasard, le destin, on ne sait pas. Coïncidence, hasard, un truc à la Lelouch, quoi.
Ouais, un peu.
Quelle année l'ouverture de la cave ?
Bah écoute, ça va faire 9 ans en février.
Okay.
Je te laisse calculer. Ouais. Je suis vieux, moi.
2017, alors.
Ouais, 17-18, ouais. Un truc comme ça, okay. Je pense. À peu près. Ah oui. Ouais. Putain, ça passe.
Ouais, ça passe.
Mais oui, ça, le temps passe très, très vite. Alors, on va revenir à mon seul en scène, Hermeline, seul en scène. Alors, j'en profite d'ailleurs pour une petite aparté encore, si mon esprit arrive à suivre ce soir. Il a l'air de s'envoler, je ne sais pas ce qui se passe. Pour remercier mon sponsor, le sponsor de Hermeline Seule en scène, le Géronimo Lagadec, qui est une enseigne de vêtements à Brest, rue de Siam, humoristique, originale, iconique, mythique, et avec beaucoup d'humour sur ses vêtements. Donc merci Géronimo Lagadec d'avoir accepté de révéler Hermeline sur scène mercredi. Je n'ai pas vu comment je serai habillée encore, je ne connais pas. Je connais simplement la typo qui m'a envoyée ce week-end, qui est assez vintage, qui est très sympathique. Mais ce sera la surprise. Je découvrirai Hermeline comme vous, chers auditeurs, chers spectateurs, chers publics. Je suis impatiente de découvrir ça avec vous. Ceci dit, on va rester dans les vins pour mon premier souvenir vintage, cette partie de mes premières fois. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous m'interrompez, il n'y a pas de problème. Promo Golf, parce que c'est le sujet. Promo Golf, c'est toutes mes premières fois. Première fois à dîner seule le soir dans un resto chic. J'ai 20 ans. Premier verre de vin à table. Prémisse d'un alcool mondain. On en revient toujours un petit peu à l'alcool, c'est bizarre. Premier mensonge.
Bah, c'est culturel, hein.
Comment ?
C'est culturel en France, hein, l'alcool, quand même. Hein.
Est-ce que c'est qu'en France ?
Bah, tu sais, le champagne, quand même, nos petits Américains et nos petits Chinois, ils l'aiment bien, et pourtant, c'est français, hein. C'est notre appellation. Hein.
Remarque, c'est vrai que George Clooney s'est offert des vignes en Provence. Brad Pitt aussi, non ? Ouais, ouais. Ils viennent tous en Provence.
Oui, je crois aussi, ouais.
Mais ils boivent beaucoup de café.
Oui.
Alors, on continue. Premier mensonge. John rentre à Dove tous les vendredis. Ah non, je vais pas parler de celui-là. Celui-là, vous en aurez l'écoute quand vous viendrez mercredi soir. Premier baptême de l'air. En avion, en hélicoptère, pour l'organisation de la journée presse du golf dessinée par Jack Nicklaus, abaillé en France, et du clubhouse d'or et de marbre, en montgolfière à Annonay, grâce aux haillons et carrosseries Frappa. Et vous ? Quel est votre premier baptême de l'air ? En quoi ? Alors, à Brest, on a aussi le téléphérique, chers amis. Et ça rejoint Géronimo Lagadec, puisque le téléphérique rejoint le centre-ville aux ateliers des Capucins en hauteur. Et donc, nous, ce n'est pas les pistes de neige, c'est l'océan qu'on traverse en téléphérique. Un souvenir de baptême de l'air ? En avion ? En hélicoptère ? En téléphérique ? Une cabine qui tombe ?
Je ne m'y attendais pas, celle-là.
Non, on n'a pas eu...
Un tire-fesse, ça passe ou pas ?
Bah, exactement. Oui.
Tu sais, en plus, ça m'est arrivé quand t'es tout petit, tu fais la classe de neige et évidemment t'as le tire-fesse et tu te mets pas bien et ça tremble et tu tombes en fait et tout le monde se fout de toi.
Alors moi, c'est pire que ça. Donc j'ai détesté le ski. D'ailleurs, je n'y suis jamais retournée plus tard. Une piste, je sais plus où on était, mais j'étais toute petite en effet Et une piste, j'arrivais pas à la monter, je bloquais au même moment, en plein milieu de la piste. Une fois, deux fois, trois fois, je tombais, donc il fallait m'extraire de la piste pour que les gens puissent continuer à monter. Je redescendais, je remontais une fois, deux fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, mais on se moque de moi ! Adélie, c'est un, une
phrase... C'est pas mal.
Oui, oui, c'est la phrase.
C'est une phrase du spectacle, mais qui n'est pas... qui m'est venue là, comme ça. Et donc, finalement, au bout de 15 fois, 20 fois, j'arrive à effectuer cette montée en tire-fesse jusqu'en haut. Sauf que, eh bien, le groupe m'avait oublié, il était parti. Et je me suis retrouvée toute seule dans les arbres. Toute seule dans les arbres. 16h, 17h, 18h, il fait nuit, c'est la nuit, maman, je pleure. 19h, 20h, et là, un couple d'Allemands passe. Il me voit pleurer contre un sapin, toute petite, perdue, un petit fan abandonné. Et ils me redescendent à la station. Alors autant dire que, évidemment, mes parents se sont un petit peu énervés contre l'école de ski. Ça ne vous est jamais arrivé, un tel souvenir, une telle épopée?
Ah non, mais là, t'as tout mon respect. Hein. Mmh. Mais franchement, moi, il m'est arrivé des trucs de barré, mais ça, là, t'as tout mon respect. Hein.
Ok.
Bravo.
Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à téléphoner. Hein. Première suite dans un palace. À chaque déplacement, j'appelle ma mère. « Allô, maman, tu verrais où je suis, c'est dingue !» Je lui raconte... Je lui commente les cadeaux déposés sur l'oreiller, les corbeilles de fruits, les chocolats raffinés, les magnums de champagne dans les seaux. Je prends la pose avec mon vieux Polaroid dans une main, imitant la Vénus de Botticelli dans ma baignoire XXL en forme de coquillage nacré. Je me fais servir dans mes draps en satin un petit déjeuner archimboldien, avec la presse sur le plateau en argent, comme dans un film de Bébel. Et vous ? Quel est votre souvenir vintage de palace?
Alors moi, j'ai pas eu la baignoire en coquille Saint-Jacques.
Mais au Vauban. Alors au Vauban, je suis arrivée à Brest, je me suis installée à Brest il y a un an pour revenir à côté de chez mes parents dont je n'arrive pas à m'affranchir en dépit de tout ce que je raconte. Et entre mon appartement que j'ai quitté et celui où j'arrivais. Et la signature de chez le notaire, il fallait que je prenne une chambre d'hôtel. Et j'ai pris une chambre au Vauban. Et j'ai demandé la mythique chambre des artistes, qui est dédiée aux artistes. Ouais. Si, celle où Christophe Jeanne Miossec...
Birkin, t'as pas eu?
Ben justement, c'est celle-ci.
T'as réussi celle... à dormir?
Ouais. Alors, c'était fin octobre. Donc, c'était la bonne période. Parce que l'été prenait pas cette chambre. Elle est tout en tartan. Mmh. Moquettée en tartan des pieds du sol au plafond, écossais, avec de la moumoute un peu partout. Alors c'est hyper vintage. Hein. Et donc dans cette, mais si vous voulez la découvrir, allez-y, vous pouvez sur YouTube. Il y a une vidéo.
Ça coûte cher pour.
Non, c'est une expérience. Hein.
Ah c'est vraiment, ouais,
c'est vraiment une expérience,
hein.
Et c'est très sympathique.
C'est un escape game arrivé à une certaine heure. Hein.
Okay. Non, de mémoire, je crois que c'est dans les 70 euros. Hein. Justement,
70 euros.
Ouais. Bah, c'est à faire. Hein. Passer une nuit dans cette chambre-là, c'est un défi.
Il y a une forme de déco. Ouais,
ah, mais c'est hallucinant.
C'est authentique. Quoi.
C'est tartan de partout, le drap de lit.
L'hôtel a été refait il y a 10-15 ans, je crois. Il a tout refait, Charles. Mais cette chambre-là, il l'a refaite à l'identique.
Ok.
Et donc, dans cette chambre-là, Christophe Miossec a tourné un clip. Et il a également... Je pense qu'il en a tourné deux. En tout cas, il en a tourné un avec Jeanne Birkin. Et c'est Jeanne Birkin qui avait demandé, je crois, à tourner dans cette chambre, il me semble. C'est ça, l'histoire?
Tout à fait.
Tu connais mieux l'histoire, peut-être?
Non, mais je confirme parce que j'ai entendu parler.
Donc, je ne sais plus quelle chanson, quel clip, mais vous pouvez aller voir Christophe Miossec, Jeanne Birkin, Hôtel Vauban à Brest, et vous découvrirez la chambre d'artiste. Et donc, je me la suis offerte. C'était ma première nuit à Brest. C'est bientôt un souvenir vintage, mais pas encore. Il est trop récent. Dans mon prochain spectacle, qui n'est pas encore écrit.
Ouais, moi, ce n'est pas trop vintage, alors ma suite à moi. Il y a un an et demi, donc tu vois.
Oh bah si, encore, allez. On aménage le concept vintage en radio. On peut faire tout ce qu'on veut, pourvu que ce soit avec modération.
Ah bah là, il n'y a pas d'alcool.
Alors
non mais même, voilà.
Alors non, tu non. Veux,
là,
tu...
là, on boit pas.
Ah tu... non, là, faut pas boire. oui.
Tu
donc,
veux nous en faire
part? Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Japon. C'est un vieux rêve de môme. Il y a un an et demi, avec mes deux meilleurs amis. Et on a eu la très bonne idée, je déconseille à tout le monde de le faire, de louer par internet un camping-car vers le Japon. Alors, on s'est retrouvé avec un truc qui avait ni toilette, ni eau, ni.
Et pourtant, au Japon, ils ont des toilettes partout.
Ouais,
hein, ils sont ultra modernes.
Ça, c'est de l'arnaque, le camping-car. Hein, on s'est retrouvé avec un minivan. Enfin, bref. Et vraiment très tape-cul. Et au bout de 2 semaines sur les routes, le chauffeur en a un peu marre, mon pote, et on passe devant un palace. Alors, le truc comme dans les films, quoi. Avec des voitures de ouf garées, avec des voituriers. Et lui, nous, on est habillés, mais vraiment comme des clodos. Et on arrive devant le palace. On se gare un petit peu plus loin. Et là, il y a un mec qui dit non, faut pas se garer là, faut se mettre devant, après des belles voitures et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, on dort là, moi j'en ai marre. Donc, il nous a payé les 3 nuits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le truc, tu rentres dedans, c'est comme dans les films, quoi. T'as 500 mètres carrés de dorures, de fontaines, de machins, des grooms partout. Ils ont un ascenseur spécial, ils montent, ils te mettent ta valise avant. J'arrive dans la chambre. Bah, la chambre, je sais pas, 50 mètres carrés, quoi, à peu près. 2 grands lits king size, une salle de bain avec une baignoire où tu peux aller à 10 dedans.
Ah oui.
Le home cinéma, la vue sur le machin et tout. Et le lendemain, petit déjeuner. Alors, je t'écris même pas parce que c'était inimaginable avec le chef qui te fait tout. Et pour la modique somme de 150 euros, quand même. C'est pas
150 euros de la nuit.
Et c'est pas de l'arnaque, hein, franchement, là-bas. Et donc, voilà, ça, c'est mon premier souvenir et mon seul. De suite.
Eh bien, comme tu parles de Japon, parce que je peux vous dire que dans n'importe quelle circonstance, vous pouvez tout me raconter. J'aurai toujours un souvenir vintage à vous raconter parce que je dois provoquer le chaos ou je sais pas, mais depuis toute petite, je provoque, quoi. J'ai cherché, hein, j'ai vu des psys, des trucs, des machins. Pourquoi je provoque comme ça? Mais va savoir. Et donc, au Japon, comme tu en parles, j'y pensais pas, mais tu en as parlé. Je suis partie au Japon il y a une dizaine d'années, 15 ans, je sais plus. Et la dernière nuit, donc c'était un voyage millimétré, et la dernière nuit, je l'ai passée dans un hôtel un peu luxueux à Osaka. Sauf que donc j'arrive avec mon voucher, et à l'accueil de l'hôtel, ils me disent « Ah ben non, on vous a pas sur nos listes. » Comment ? Quoi ? Qu'est-ce que vous me racontez ?
Scandale.
Mais au moment où je prends, où je décide de partir... En colère, la fille de l'accueil me dit « Attendez, je vais me renseigner. » Elle revient et elle me dit « On est désolé. » Parce que c'était quand même une agence de voyage. C'était un voyage très particulier que j'ai fait au Japon. Je ne pouvais pas passer par une agence traditionnelle parce que je suis partie sur la presqu'île de Shikoku, à l'époque, dans la mer intérieure de Seto, pour un festival d'art contemporain dont c'était la première édition. Et c'était une destination qui n'était pas très connue des agences de voyage. Donc, il n'y avait qu'une agence à Paris qui organisait un voyage là-bas. Donc, autant dire que le palace, ils connaissaient quoi, l'agence de voyage. Et donc, ils étaient désolés. Et la fille revient, elle me dit « Écoutez, on est désolés. Pour nous excuser, on vous donne la dernière chambre qui reste de libre dans l'hôtel. C'est la suite au dernier étage, au rooftop.
» Ouais, ok, je prends.
Ça ne me dérange pas du tout. Je prends. En plus, il me restait 5 centimes d'euros dans ma poche. Je n'avais plus d'argent du tout. Je prenais l'avion le lendemain. Donc, autant dire que j'aurais été obligée de faire la manche au Japon. Aucun souvenir vintage, toujours. Et Adélie ?
Bah, qu'est-ce que tu veux que je rivalise contre toi, là ? Je ne sais pas, de l'anecdote est plus ouf que la tienne. Hein ?
Mais je ne sais pas, peut-être un souvenir de...
Ouais, un souvenir d'hôtel. Avant d'être formatrice, j'étais commerciale. Et je suis pas quelqu'un, je crois, qui peut être dans une entreprise de ce genre de choses. Et parce qu'en règle générale, je respecte pas trop les règles. Vraiment, je...
Ah, tu es une rebelle.
Ouais, mais je suis une rebelle soft, tu vois. Et je fais les choses vraiment très tranquilles. Et en fait, si tu veux, quand t'es commercial, en tout cas, c'était à l'époque, dans une boîte dans l'agroalimentaire, comme je parle allemand, t'avais aussi une filiale en Allemagne. Et... Bref, il y avait une histoire pas claire avec un gars qui avait le double de mon âge, qui voulait me draguer. En fait, il a réussi à faire en sorte de convaincre la N+2 que ce voyage était absolument important, tu vois, que j'aille toute seule en Allemagne. Et moi, je me suis dit, cool, tu vois, c'est des vacances payées par la boîte, je vais y aller. Et puis, entre-temps, ce mec, il a trouvé son dévolu sur une meuf plus jeune, tout ce que tu veux. Et donc, il avait oublié qu'il avait réussi à convaincre ma N+2 d'aller en Allemagne. Parce que moi, le voyage, je l'ai eu dans tous les cas. Et si tu veux, quand tu vas réserver ton hôtel avec l'argent de la boîte, ils te disent, voilà, vous avez tant d'euros par nuit. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans la liste des hôtels et j'ai pris le plus cher. Ce qui fait que quand je suis arrivée en Allemagne et qu'ils m'ont demandé où est-ce que je logeais, bah, je logeais dans l'hôtel le plus cher. C'était un hôtel asiatique, enfin une chaîne asiatique. Et j'avais des noirs en marbre, du marbre partout.
Bah, ça va, t'as pas ridicule.
Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis...
Non, mais elle en rajoute. Je crois qu'elle en rajoute. Non, mais... non, je rigole. Chers auditeurs, avec modération. Hein.
Et en fait, bah, si tu veux, comme tout le monde s'en foutait de moi, enfin que de l'accueil avait été oublié, enfin j'avais été littéralement oubliée, bah, je me suis fait donc une semaine tout frais payé par la boîte en Allemagne, mais je me suis ennuyée parce que je connaissais personne. Donc je me dis, bah, c'est génial, je suis dans du marbre, enfin tout est beau, mais je suis toute seule, donc finalement ça avait pas de charme, tu vois. Enfin,
ouais, c'était moins rigolo, quoi.
Ouais, c'était même pas rigolo du tout, tu vois.
C'était long, mais.
Ouais, c'est long, je me suis vraiment ennuyée pour le coup.
Et t'avais pas moyen de faire venir ton copain si t'en avais un?
Bah, à l'époque, non, j'avais pas le copain. Mais quoique maintenant, j'aurais pu. Mais non, là, non. À l'époque, j'étais jeune, j'avais une petite vingtaine et non, j'avais pas d'accroche.
Ta meilleure pote?
Ouais, t'aurais pu appeler ta meilleure pote. Ta mère?
Non, non, pas la mère.
Oh, mais on sait jamais.
Non, faut laisser maman.
Parfois, il y a une osmose.
Non. J'étais restée toute seule et je m'étais emmerdée. Et alors, ce que j'ai fait, pour le coup, alors, pour l'anecdote, si tu veux une anecdote peut-être un peu croustillante, comme je suis assez extravertie, je me suis dit, bah, je vais aller voir des gens dans la rue, puis je vais aller...
les inviter.
Je vais faire une marode.
Non, mais en fait, je me suis dit, je vais aller dans la rue. Et en fait, il y avait un festival aussi asiatique à ce moment-là, un peu comme une forme de Japan Expo, mais il y avait des gens qui étaient déguisés. Je me dis, tiens, je vais aller leur parler, vu qu'il y a le déguisement, il y a un sujet de conversation. Et à un moment donné, je parlais avec une personne, donc moi, garçon, femme, enfin, homme ou femme, je m'en foutais. Et donc, je parlais avec un mec qui avait un beau déguisement. Et juste, je me disais, bah, salut, il est beau ton déguisement, tu vois, histoire juste de me faire des potes un peu à l'arrache.
Ah oui, ça marche comme ça avec toi? Oh, il est beau ton déguisement. C'est... Alors là, c'est un peu vintage, à mon avis, comme manière d'aborder.
Je sais pas. Donc, j'ai essayé d'aborder comme j'ai pu. Et je me suis dit, vas-y, je suis une nana. En règle générale, c'est les mecs qui abordent, ça devrait être soft. Et en fait, il y a une nana d'un seul coup qui arrive de je sais pas où, ça fait, je sais pas, une petite minute que je parlais avec ce gars-là. Elle vient et tire son mec en mode non, mais c'est n'importe quoi. Elle lui fait une méga crise de jalousie.
Ah oui.
Et là, je me suis sentie super mal en me disant, mais moi, je vais juste me faire des potes, pas détruire des couples. Et du coup, j'ai arrêté. Non, vraiment, histoire de merde, tu vois. Enfin, j'étais seule, j'essayais de me faire
après,
des amis.
Après, tu lui as peut-être sauvé la vie. Hein.
Ouais, je sais pas.
Il s'est peut-être
dit... En tout cas, quand tu es sans une crise de jalousie, même quand c'est en allemand et que tu comprends pas tout, tu te dis, bon, c'est pas la meilleure idée du siècle. Mais ouais, j'ai pas de souvenirs vintage. Tu dis, ouais, j'ai 5 centimes. Et pour 5 centimes, c'est moi qui présente ta poche. On te met dans la suite qu'on stoppe au Japon. Donc ça, j'ai pas sur mon anecdote.
Alors, j'en ai une autre d'anecdote. Parce que c'est en écoutant les anecdotes des uns que les anecdotes des autres nous arrivent. Donc c'est en écoutant vos anecdotes que les miennes arrivent. Donc, mon spectacle, vous viendrez l'écouter mercredi. J'ai 24 ans, j'ai quel âge? Bon, j'ai 26 ans. Je viens de rentrer, je ne sais plus quel âge j'ai exactement. Enfin, c'est l'année où j'arrête de fumer. Donc en 1998, au siècle dernier déjà, dis donc.
Mais attends, c'est excellent, 98, t'avais
28
ans.
Ah oui, en 1998, ouais, non. Bah si, 28, à peu près 28, ouais. Ah non, en 98, j'avais pile 30 ans. Bah oui, puisque je suis 68. Donc, en 98, je rentre au sein du groupe La Poste comme directrice de la communication d'une filiale. Et notamment, j'ai l'activité à l'international, le conseil postal à l'international que j'organise en tant que communicante. Et donc, j'ai un déplacement à organiser à Hambourg. Donc, je ne connais pas Hambourg. Donc, il faut que je réserve un hôtel. Je réserve un hôtel sur le port de Hambourg. Mais personne ne me dit que les hôtels du port, c'est un peu comme les hôtels de gare. C'est louche. Donc, je réserve cet hôtel et je m'y rends en amont avec un des commerciaux de l'entreprise qui vend son conseil postal auprès de la poste allemande. Et là, il se trouve que c'est un hôtel de passe. Donc, on s'installe dans l'hôtel Et évidemment, bon, ça alerte de partout. En haut, en bas, à côté. Toc, toc, tac, tac. Et alors, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mon collègue. Il vient, il frappe à ma porte, il dit « Mais qu'est-ce que tu nous as réservé, là ?» Je dis « Ben, un hôtel. Tu m'as demandé un hôtel sur le port. Un hôtel sur le port, voilà. » « Non, mais t'es folle ou quoi? On va pas rester là toute la nuit. » Ou alors, ça c'est vraiment une certaine catégorie de garçons. « Ou alors, si tu veux, on fait chambre commune. » Je dis « Mais t'es fou ou quoi ?»« Non, non. Changeons d'hôtel. » Et du coup, il était tellement énervé. Alors, je vous rassure tout de suite, chers auditeurs, parce que j'en rajoute un peu à chaque fois que je raconte des petits souvenirs vintage. Bon, ça s'est vraiment passé comme ça, mais c'était pas le genre de type à draguer. Donc, il a tenté une petite phrase comme ça, rigolote, mais c'était pas du tout un plan drague. Parce qu'en en vérité, il était vraiment très en colère. Et du coup, il est allé dans le centre de Hambourg, je sais pas ce que... Il est revenu, il m'a dit, bon, tu prends tes affaires, on s'en va. Et on s'est retrouvé au Hayat, à Hambourg. Bon, moi, tranquille, hein, j'avais gagné au change. Mais tout ça pour vous raconter un souvenir vintage qui va faire écho avec la maison... avec un hôtel de passe, parce que je dois avoir... Il y a des petites récurrences dans ma vie. Par exemple, celle que je vais vous raconter, si je retrouve le sujet, la page. J'ai toujours un problème avec les numéros de page, visiblement. Donc personne n'a, en attendant, une anecdote de passe ou...
Je t'en prie, non. Moi, j'ai une anecdote de passe. Vas-y. Hein.
Voilà.
Vas-y,
ouais.
Mais vraiment, mais j'étais jeune. Hein. J'avais 6 ans.
Oui.
Non, j'habitais à Toulon en fait.
Ah bah, hein?
Oui, je suis né à Toulon.
Mais moi aussi, et à 6 ans aussi, j'habitais à Toulon.
Bah
et
ouais, j'ai... mais donc,
ah, c'est drôle, ça.
Donc j'avais 4 ans.
Ah oui, d'accord. Comme ça.
Mais non, à 6 ans, ouais, on était dans un immeuble et en fait, moi j'ai mes souvenirs d'enfant des gens qui habitaient au-dessus de chez nous. Où elle avait 4 filles, cette dame-là, adorable, où je prenais mon goûter à m'acheter des jouets, les gamines, enfin les sœurs, quoi, les 4 sœurs là-haut, les 4 filles. Mon anniversaire, j'avais un cadeau, c'était génial. Et il y a 15 ans, je reparle avec ma mère. Je me dis, ah, je me souviens de Madame Intel avec ses filles et tout. Et là, elle éclate de rire. Je dis, pourquoi tu rigoles? Elle me dit, mais Erwan, c'était pas ses filles, c'était une mère maquerelle avec les prostituées, en fait.
Ah.
Ah oui.
Et en fait, c'était leur logement, quoi. Elle partait la journée bosser, elle rentrait là le soir. Mais et en fait, c'était leur chouchou, donc il y avait des cadeaux, des gâteaux. Et donc voilà, mon histoire de passe à l'âge de 6 ans.
Ah bah, j'ai une anecdote. Alors, je pensais vous lire une histoire qui se termine par le mot pute.
Oh,
mais je vais la garder, peut-être je vais garder...
Avec modération.
Oui, bah ouais, avec modération, celle-ci, je vais la garder pour mon spectacle mercredi, parce qu'elle en fait partie. Mais j'en ai une autre qui ne fait pas partie de mon spectacle et qui va vous intéresser. J'aménage avec... La première fois que j'aménage en couple, hein, c'est dans un appartement en face du bois de Boulogne. En 98, décidément, en 98, il s'en est passé des choses dans ma vie.
Oh la vache.
Ouh là là, ça me donne chaud.
En fait, la première fois que t'emménages en couple, t'avais 30 ans.
Oui.
D'accord.
Oh, c'était la dernière. Et aussi.
Ok, première derrière.
Ouais, la première, si c'est pas la bonne, c'est pas la peine. Hein. Et c'est vraiment pas la bonne, je vais vous raconter. Donc, on aménage dans un studio en face du bois de Boulogne. Et on rompt. Bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais on rompt. Et pour me remettre de cette rupture qui était hyper violente, j'organise une soirée avec plein de... Et puis, à l'époque, j'organisais toujours plein de soirées avec plein de gens qui ne se connaissent pas. J'adorais mélanger des univers différents, plein de gens différents, etc. Donc, j'ai un copain DJ. Voilà, ça rentre dans l'appart... Ça sort, ça rentre, ça sort, etc. Et puis, il y a deux types qui rentrent, et deux copains, je ne les connais pas, et il y en a un qui se met à brancher une fille. Ça met la fille hyper mal à l'aise. Alors, son copain lui dit, bon, écoute, tu vois bien que Hélène, là, elle est mal à l'aise, tu la laisses tranquille. Mais le copain, il insiste. Donc, son autre pote lui dit, bah, écoute, viens, on va discuter dans les toilettes. Et on les voit sortir, l'un avec le crâne en sang, l'autre avec le cendrier en marbre où je mettais mon lavabo dans la salle de bain, cassé. Donc il avait pété le cendrier en marbre sur la tête de son copain. Donc ils s'en vont en colère. Donc ça met un peu un froid dans la soirée, tout le monde s'en va. Quelques-uns restent avec moi pour nettoyer l'appartement. On reste là ensuite dans cet appartement que mon ex avait complètement dépouillé de tout meuble. Donc il ne me restait rien du tout dans cet appartement, à part mes vêtements. N'est-ce pas ? Mais tout ça, je le raconte.
Et le cendrier en marbre.
Et le cendrier en marbre, bah, non, mais qui était déjà cassé du coup. Il m'avait laissé un bol quand même. Un bol.
Sympa, ça.
Mais si vous voulez lire l'histoire, n'hésitez pas, parce que j'ai raconté toute ma vie dans Balade confinée en vente sur Amazon. Parce que j'adore ces histoires, finalement. J'adore les lire, donc autant les raconter, puisqu'elles me sont arrivées. Et donc, on est là, dans cet appartement, sur la moquette. Il n'y a plus que la moquette et les murs. Et on refait le monde. Et puis, tout d'un coup, on entend... Donc, c'est un immeuble assez bourgeois, hein, à Boulogne-Billancourt, en face du bois de Boulogne, avec une grille en fer, des marches, une porte vitrée, une deuxième porte vitrée. Enfin, un truc assez blindé, bourgeois, sécurisé. Et là, tout d'un coup, on entend les portes d'entrée de la résidence qui explosent en 1000 morceaux. Donc, on sort et c'était les deux potes qui revenaient régler leur compte. Enfin, ils avaient envie d'en découdre avec l'immeuble ou je ne sais pas quoi, avec moi, avec la soirée. Et la porte en 1000 morceaux. Donc, l'un des deux avec des bandages partout autour de la tête et son pote. Et puis, ils s'en vont. Bon, ça, c'était le samedi soir. Alors, dans cet immeuble... Le week-end, il n'y avait personne. Les gens partaient tout le temps en week-end à Trouville, Honfleur, Le Touquet, enfin, je ne sais où. Mais en tout cas, il n'y avait personne dans l'immeuble. Et la gardienne qui habitait en face de chez moi n'était pas là le week-end. On ne fait rien. Je prends le parti de ne rien faire et ni vu ni connu. Et donc, le lundi matin, la gardienne sonne. Elle me dit, mais vous avez vu ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dis, bah, je ne sais pas, madame. Je ne sais pas. J'ai entendu, ouais, j'ai vu ça hier, mais... Et là, elle se met en colère. « Ah, mais c'est pas vrai, j'en ai marre. Je vais voir les flics. » Elle va voir les flics et elle revient. Et elle me dit « Écoutez, je dois vous remercier parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, dans cet immeuble, bon, déjà, c'est une allée où il y a beaucoup de prostituées et j'en ai marre. J'arrête pas de demander aux flics de venir sécuriser et interdire l'allée parce qu'il y a des clients louches, des prostituées, c'est violent. Et puis surtout... La plupart des propriétaires sous-louent leur appartement le week-end aux prostituées. Et là, j'en ai marre, je ne veux plus de cette situation. Ça fait trop d'années que je demande aux flics de venir faire quelque chose. Et bien du coup, grâce à cette soirée, ça a fonctionné. L'allée a été sécurisée, il n'y a plus de prostituées dans la rue. Les propriétaires ont eu interdiction de sous-louer leur appartement. D'ailleurs, il y a plein de propriétaires qui ont déménagé. Comme quoi, hein, c'est ce que je disais en introduction, le pire, du pire, émerge le meilleur souvent.
Ouais, ou le hasard fait bien les choses aussi.
Et vous ? Quelle est la boisson de votre meilleur souvenir vintage ? À quelle boisson on était ce soir-là ? Je ne sais pas, peut-être au champagne.
Alors, ouais, toi peut-être au champagne, ouais.
À 30 ans,
vu
ouais,
l'appartement...
je pense que j'étais au champagne à 30 ans, ouais.
Non, moi il y a 30 ans, j'avais quoi, 25. Waouh, j'étais encore pas sur les trucs de qualité, moi.
Bon alors, d'autres souvenirs vintage. Hugo, ta première improvisation.
Première improvisation ? Oula, ça commence à remonter déjà. Mais c'était en 2017.
Mm-hmm.
Parce qu'on commence souvent avec des spectacles d'impro, avec des troupes, c'est plutôt dans des bars. Où parfois on est à un étage, où on est vraiment... quasiment proche d'une porte, donc ouais, c'est vraiment une expérience parfois où il n'y a pas de... Enfin, c'est lumière à vif, quoi. Comparé à une salle de spectacle où tu vas jouer, je refais toujours la promo mercredi prochain, à 20h, là forcément, c'est éteint. Donc tu vois à peine le premier rang, alors qu'en improvisation, bah, des fois dans un bar comme ça, tu vois tout le monde.
Tu vois tout le monde, ouais.
Et tu sais quand ça prend et quand ça prend pas. Je dirais 2017, première expérience, quoi. Et ça s'est plutôt bien passé. C'était de l'adrénaline pure et moi, c'est ce que je recherche, quoi. Et j'espère que c'est ce que tu auras, du coup, en sensation mercredi prochain. Parce que c'est un peu ça qu'on va chercher. C'est pas forcément de l'amour, mais de un saut dans le vide. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. C'est plutôt un saut dans le vide.
Exactement. Et d'ailleurs, j'en parlais il y a deux jours, là, à une copine. Et je lui expliquais à quel point, même les répétitions, j'ai adoré cette adrénaline. Mais le problème, c'est le lendemain. T'as un blues mortel, quoi.
Oui.
Quand tu quittes cette adrénaline, c'est effroyable.
Il faut aller marcher, faire quelque chose, rester dans le mouvement. Je pense que c'est important de rester dans le mouvement. Pas trop s'enfermer, aller voir quelqu'un. Moi, en tout cas, je fais pas mal de sport à côté, même si ça se voit pas via mon corps. Mais la réalité, c'est que...
Il faut savoir qu'il est en caleçon, en fait, et, effectivement...
Non, mais c'est vrai que 65 kilos, slim fit, bon voilà, on se poserait des questions, mais la question c'est...
Hugo est grand et effilé, il a la taille mannequin.
C'est un petit 1,78. Mais c'est pour dire que je pense que c'est important de pouvoir mettre son esprit dans quelque chose. Et d'être dans le mouvement, si on n'est pas dans le mouvement, si on reste enfermé. Je pense que c'est à ce moment-là où en fait on peut ruminer. Et le pic de l'adrénaline, il faut savoir le contrôler, le maîtriser quoi. Donc, après, voilà, respiration ventrale, c'est sûr. Après une bonne séquence, c'est important. Adélie en reparlera, mais je pense qu'après avoir fait un spectacle avec peut-être Standing Ovation mercredi...
Mais c'est vrai, on n'a pas parlé de l'après. Adélie, comment gérer l'après, le
après,
blues.
Est-ce que Adélie fait des spectacles?
Non, mais elle...
Moi, je fais des concours d'éloquence.
Tu fais des concours d'éloquence, donc il y a aussi la pression.
Ouais, et puis ouais, tu parles avec des gens déguisés, en plus.
Mais est-ce que tu as cette pression après? Est-ce que quand tu rentres chez toi, est-ce que tu es fatigué ou enfin que tu as un pic d'adrénaline qui te suit?
Moi, c'est pas tant les concours d'éloquence qui me font ça, parce que pour moi, c'est un peu un échauffement, tu vois. Ce qui me fait cette adrénaline-là, c'est quand j'ai des moments vraiment marquants. Tu vois, par exemple, cette semaine, je suis allée à l'Assemblée nationale, c'était la première fois que j'y allais. Et là, ouais, j'ai eu un pic d'adrénaline super fort, tu vois. Parce que tu dis, ça y est, là, je vois les délégations, je vois les députés, là, je suis dans l'hémicycle, tu vois tous les salons, tu dis, ouais, ok, là, il y a quelque chose, tu vois. Mais moi, ce que je fais quand j'ai des moments très forts comme ça, c'est que, comme toi, je marche, je vais voir, je fais en sorte d'avoir une autre activité. Et je pense que c'est important de ne pas être monotâche. C'est-à-dire que quand tu fais du théâtre ou de l'éloquence, c'est beaucoup d'instants, enfin c'est beaucoup dans le moment présent, et je pense que c'est important de multiplier les moments présents. C'est-à-dire que je fais pas que de l'éloquence, je fais aussi de la danse, je fais aussi du chant, je fais aussi de la course à pied, je fais aussi de la natation, et j'ai envie de progresser un peu tout le temps dans ces trucs là donc dès que moi j'ai fini un truc d'éloquence, bah boum, je vais aller courir, tu vois, ou boum, je vais aller faire du chant, ou
Et un switch et ça, sur une autre activité, quoi.
Ouais,
c'est ça.
Ouais, tu switches, et à partir du moment où, je sais pas, par exemple, quand t'es dans la piscine et que t'as la tête dans l'eau, bah, t'es même carrément dans un autre élément. La gravité, elle, c'est pas du tout la même chose. Et là, tu dis, ok, bah, en fait, je peux aussi être que ça, tu vois.
Et tu développes, en fait, tu développes d'autres centres d'intérêt.
Ouais, c'est exactement ça. Je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Ouais. Ce qui fait que, bah, quand j'ai un blues, tu vois, quand je progresse pas sur un sujet, je me dis, bah, c'est pas grave, dans l'autre sujet, j'ai progressé. Et je me rattache à ça. Et après, je me rends compte qu'avoir fait une pause dans une activité, quand j'y reviens, je me dis, ah oui, j'ai fait tout ça. Et je pense que une autre chose qui est super importante à faire, c'est prendre des photos, des vidéos, et les regarder une semaine après, un jour après, dire, attends, j'ai fait ça quand même. Je l'ai fait. Et là, c'est là où je pense que ça se régule.
Alors ça, c'est pas du tout mon truc. Hein. Je suis pas du tout une fille d'image, donc ça, j'avoue que...
Ouais, mais c'est le souvenir, tu vois, c'est l'étape du souvenir.
Alors, ce serait plutôt écrire, quoi, l'écrire le souvenir pour dans 10 ans, pour dans 20 ans.
Ouais, tu peux l'écrire, tu peux le photographier, mais c'est de se dire, ok, j'ai rempli quelque chose. Tu vois. Enfin, moi, j'aime bien ça, j'aime bien tout de suite après passer dans un autre élément, et après, ne pas l'oublier, et de me remémorer tout ça, et il y a un côté très agréable. Voilà comment je fonctionne.
En fait, tu te fais ton petit bilan, quoi. C'est ça, en quelque sorte.
Ouais, après. Ouais, c'est ça, après. Tu sais, quand t'as des gros downs, quand t'es en répétition, ce truc, ou quand t'écris des cours, tu cherches à faire tes trucs, des fois t'as des downs, tu regardes tes souvenirs, tu te dis, hey, j'ai fait ça quand même, hein, c'est pas mal.
Je pense être entouré aussi de personnes qui ont une approche, enfin... qui ont, comment dire, des sentiments à notre égard, dans le sens où on fait des amis proches ou un compagnon, une compagne. Je pense que c'est bien d'avoir une oreille attentive aussi après des fois des événements comme ça, où il faut avoir quelqu'un qui est là pour aussi des fois nous remettre sur le droit chemin, dans le sens où il y a des possibilités ailleurs, et c'est pas grave si ça n'a pas marché ce jour-là, ça marchera plus tard. Je pense que c'est important d'avoir quelqu'un, enfin des personnes sur qui on peut compter et qui sont parfois pas du tout dans ces univers-là. Pour pouvoir te parler d'autres choses, parce que parfois, quand on est dans un milieu artistique, même toi, tu parles de conférences, un peu d'éloquence, des concours d'éloquence. Des fois, il y a des. Enfin, moi, j'entends beaucoup de gens qui disent que c'est pas des métiers. on est souvent un peu mis dans une case où mais qu'est-ce que tu fais de ta journée après ça quoi. C'est quoi ton, c'est vraiment un métier parce
mais sinon,
que.
Mais tu fais quoi dans la vie?
Mais c'est ça. Alors que finalement ça reste un métier comme un autre et qui apporte aussi du bien à des gens et mais parfois souvent c'est jugé comme ah bah t'as pas ton 9-17 à la semaine du lundi au vendredi, tu fais pas la même tâche ou. Alors je pense que c'est important d'avoir des métiers comme ça où en fait on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Mais il faut savoir faire autre chose, je pense aussi, et être accompagné d'autres gens. Quoi. Voilà quoi.
Et beaucoup essayer. Alors moi, c'est quelque chose que je vois au travers de mon activité, c'est vraiment t'essayes plein de trucs. Tu vois, t'essayes. Et au bout d'un moment, t'as des chemins qui se créent et tu sais pas pourquoi ils sont là. Mais tu vois, par exemple, un souvenir tout court, moi, je savais pas que l'éloquence, ça existait. Déjà, je trouve que c'est un nom pompeux, l'art oratoire, l'éloquence. J'en ai pas trouvé d'autres. Et enfin moi je savais pas que ce métier-là il existait, tu vois, si j'avais pas dans l'UT dans lequel j'étais, si il y avait pas eu le concours éloquentiel à l'époque, j'avais pas rencontré un metteur en scène qui a monté son théâtre avec sa femme dans le 15e arrondissement de Paris, si j'avais bon, il s'appelle Olivier Courvier, si j'avais pas rencontré Olivier Courvier, j'étais pas allée le voir après une masterclass en lui disant waouh, tu fais du théâtre et de l'éloquence, mais moi ton métier il est trop bon, apprends-le-moi, je veux le faire. Si j'avais pas fait cette rencontre-là, jamais de la vie, j'aurais eu la carrière que j'ai aujourd'hui.
Ouais, t'as eu du culot, en fait. T'as eu du culot, en fait, à aller vers les bonnes personnes, au bon moment.
Ouais,
moi, je pensais ça.
Je crois qu'il faut surtout être... Bah, en fait, il faut être disponible.
Ouais, c'est ça.
Faut, comme dans la chanson de Yves Simon, j'ai rêvé New York. Il fait dire à Grégory Corso, et toi, Grégory Corso, pour toi... c'est quoi le luxe? Enfin, je ne sais plus exactement les paroles. Et Grégor, il fait donc répondre à Grégory Corso qui répond « C'est de fumer une cigarette au coin d'une rue et n'attendre personne. » J'adore, j'adore cette chanson. Mais en fait, il faut être disponible. Il faut être là, comme ça, au coin d'une rue et se rendre disponible à la vie, aux gens, aux rencontres.
Et puis, t'as de la chance, tu vois, il aurait pu très bien me dire, bon, là, tu m'envoies chier, enfin, il aurait pu m'envoyer chier, hein, clairement, tu vois. Et surtout qu'on était trois, pour la petite anecdote, la première masterclass avait été faite par un jeune comédien, je pense qu'il n'avait pas l'expérience de l'enseignement. Peut-être que lui, c'est un excellent comédien, mais pour nous enseigner des trucs du théâtre, il était nul. Donc, au début, on était, je crois, 30, et la deuxième masterclass, on était trois. Tu vois, pour dire à quel point il a fait une hécatombe, le gars. Et donc moi, j'y étais allée avec une ancienne meilleure amie à moi, et puis un gars, on ne sait pas ce qu'il foutait là. Et ce fameux Olivier Courvier, il a fait court. Enfin, il nous a fait court, alors que c'était du bénévolat, tu vois, ce qu'il faisait. À fond, à gonfle, tu vois, vraiment. Je pense que c'est le monde du théâtre, c'est très généreux. Enfin, je trouve que c'est un monde très généreux. En tout cas, moi, les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre du théâtre, ils ont toujours été dans beaucoup de générosité. Il a fait un cours, il s'est défoncé, j'ai tellement adoré, j'ai dit « Ok, moi je veux faire ça toute ma vie ». Il aurait pu très bien m'envoyer chier, dire « Attends, déjà, un, je me suis déplacée, deux, il faisait trois pelés, tu vois, et quatre, en plus, tu veux être ma relève, quoi, tu veux mon taf ». Et il a été incroyable. Et en fait, ce qu'il m'a dit, ce qui m'a beaucoup touché, il m'a dit « Moi, je t'ai aidé parce que j'avais l'impression de voir mon énergie, mais quand j'étais jeune, parce qu'il a à peu près l'âge de mon père, tu vois ». Il m'a dit, j'avais l'impression de revoir mon énergie. Il y avait un effet de miroir. Et c'est pour ça qu'il m'a aidée. Tu vois, enfin, tu te dis, mais ça tient à un fil, quoi, tout ça.
Ah, oui. T'as eu la bonne énergie, ouais, c'est ça, en fait.
Et d'ailleurs, je voulais te demander, ouais. Hugo, toi-même, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais j'ai l'impression que depuis peu de temps, là, ça explose, les cours, les stages, les masterclass d'improvisation. Comment t'as basculé dans l'improvisation, devenir intervenant, prof d'impro?
Au départ, je suis avec qui je joue Alexandre en duo d'impro. Nous, c'est une pièce qu'on joue totalement improvisée d'une heure. En fait, moment Covid, il ne voulait pas se faire vacciner. Donc malheureusement, du coup, il y a eu des associations qui refusaient en fait, de recruter des gens sans être vaccinés. Bon, voilà, il y a toujours des débats par rapport à ça.
On
ne va pas rentrer sur ce truc-là. Mais en tout cas, il ne pouvait plus donner cours. Et j'ai eu cette opportunité de le faire à l'Ambézélec, au patronage laïque. Et c'était assez stressant parce que je connaissais pas trop, même si j'avais pratiqué en tant qu'élève, je savais pas trop ce que ça allait donner dans la pédagogie, comment j'allais transmettre ça, est-ce que les gens allaient comprendre.
Est-ce que tu peux être bon dans ce que tu fais, mais savoir le transmettre, c'est autre chose.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont très durs et j'ai connu des profs parfois qui n'étaient pas forcément très, très sympas, qui réagissent pas. Et je pense que c'est toujours bien d'avoir un prof ou une prof qui. qui est présent ou présente vraiment sur l'instant et qui est là pour motiver les troupes. Mmh. Et ça, c'était la première expérience. Et puis, l'année d'après, le théâtre de la Comédie Finistère s'est ouvert aux Capucins. Et par le biais d'une improvisatrice qui m'a dit « Ouais, il y a une opportunité là, est-ce que ça te tente est-ce que ça te tenterait de donner un autre cours d'improvisation, mais là-bas ?» Et j'ai été au culot aussi, j'ai envoyé mon CV, et celui qui gère le théâtre, qui lui est plutôt un peu à distance, m'a dit « Bah ok, je te prends ». Et ça s'est fait comme ça, et aujourd'hui, ouais, ça reste une tendance, parce que les gens ont besoin aussi de lâcher... Il y a des quotidiens qui sont assez moroses. Les gens ont besoin, en vrai, de retrouver une bulle où, en fait, ils vont pouvoir décharger. Et ça fait du bien, en fait, de voir les gens heureux. En tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie, en fait, dans les cours. C'est que quand on est intervenant, les gens, ils sortent de là avec la banane, quoi.
Mais tu t'es lancé, tu t'es documenté, tu avais déjà été... t'es formé
Sur 5 ans de pratique, j'ai noté aussi. J'ai pas mal noté, en fait, des exercices. Et j'ai commencé à capter comment ça fonctionnait aussi. Je me suis dit, ok, d'accord, il y a toujours un échauffement, il y a des exercices, il y a forcément un univers. Après, je ne suis pas forcément spécialisé dans des masterclass, mais je fais un peu ma sauce. Je suis plutôt sur un truc de débutant, expérimenté. Après, je m'adapte aussi. Après, je ne pense pas avoir le talent pour faire ça pour des gens qui ont vraiment 10, 15, 20 ans d'impro et qui tournent. C'est plutôt pour des gens débutants, intermédiaires ou niveau avancé, ou des gens qui vont me faire confiance, parce qu'on a toujours un peu le truc de l'imposteur, quoi. C'est comment le syndrome de l'imposteur. Où on se dit, bon, est-ce qu'on pourra donner autant de tips à une personne qui en fait depuis 10 ans? On sait jamais, quoi. Moi, je suis plutôt dans un truc de découverte, intermédiaire avancé. Et c'est génial, déjà, d'être dans ce truc-là. Il y a de la demande et les gens en ont besoin, même dans les entreprises, vu que j'ai quitté mon boulot pour ça, comme on en a parlé, là. J'ai quitté mon boulot fin juin, je me lance à 100% dans ça, c'est un pari, mais... J'ai déjà des trucs qui marchent. Maintenant, il faut persévérer, quoi. En tout cas.
Mais en tout cas, aussi bien avec toi qu'avec Élodie, bon, moi, j'avais déjà pris des cours d'éloquence, d'art oratoire il y a très longtemps, quand je suis rentrée à La Poste. Et j'ai même formé en art oratoire les postiers à un moment donné. Et puis tout ça est parti, en fait. Enfin, c'est pas parti, mais quand je me suis retrouvée en cours d'impro, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je recommence. À travailler ma voix et une certaine spontanéité. Et j'ai l'impression d'avoir tout repris à zéro. Pas tout repris à zéro, parce que j'avais quand même des bases, mais avec toi et Élodie, c'est comme si c'était le bon moment pour reprendre. Alors, parce que tu disais, tu ne vas pas former des gens qui ont une certaine pratique. Eh bien, si, parce qu'en en fait, il y a de telles ruptures dans la vie que parfois, on perd confiance, on ne sait pas exactement si on va pouvoir se relever ou comment se relever. Et finalement, vous avez permis de faire ressurgir des réflexes ou une pratique ou quelque chose qui est... Il y a déjà une base, en fait. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et dans les... Vous avez un peu le même profil là-dessus, c'est votre état d'esprit et la spontanéité. Un état d'esprit très... très simple et très... Hugo, je l'ai vu, et c'est vrai, tu t'adaptes aux personnalités de chacun d'entre nous, parce qu'on est très différents, les différences d'âge, la différence de culture. En plus, aujourd'hui, dans une société qui évolue, c'est difficile de trouver un petit dénominateur commun, quoi, entre tous, et tu as réussi à le trouver.
Moi, je pense qu'après, ça, c'est l'ouverture d'esprit des gens, quand ils viennent dans les ateliers aussi d'improvisation ou de théâtre, c'est que... Enfin, que tu votes à gauche, à droite, centre, extrême, je pense que l'important, c'est de laisser ça de côté. Et même si je sais que des fois, c'est compliqué, parce qu'on n'a jamais été aussi divisé.
Si c'est eux qui font... Enfin, à partir du moment où tu fais la démarche, tu vois, de venir te voir pour faire ça, je pense que le reste, ça reste dehors, quoi.
Ouais, mais je sais pas. En fait, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'une personne
si je me dis, tiens, je vais faire de l'impro, je viens te voir... je vais pas faire de l'impro pour te parler de ma vie, de ma politique, ce que je pense, je sais pas.
Mm-hmm. Non, parce que ça peut quand même faire ressurgir des choses. Je sais que j'ai des gens qui ont pris des cours d'impro sur leur vie perso, où c'était des fois un intervenant en théâtre ou un pro, malheureusement, peut, s'il arrive pas à mettre ses limites, se retrouver un peu en mode thérapeute.
Ouais.
Et c'est vrai que là, c'est pas trop notre job. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, et nous, on essaie surtout de soulager un peu les consciences pour que les gens puissent vraiment décharger à fond. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'avec le théâtre et avec l'approche d'Adélie qu'elle a pu avoir avec toi et mon approche. C'est vrai qu'on on a été content en vrai de pouvoir aussi te soutenir durant cette période et on espère que ça va vraiment prendre parce que c'est vrai que c'est un challenge aussi de pouvoir monter seul sur scène. Il y a plein de gens qui ne le feront jamais et qui n'auront jamais le courage de ça. Et c'est déjà incroyable quoi, de faire ça.
Bah de même que je pense que, comme il faut être disponible aux rencontres, et etc., il faut aussi ne pas se poser de questions et y aller. Parce que, et c'est après, en fait, que tu t'aperçois, tu t'es planté, ou tu peux renouveler l'expérience. Mais si tu commences à réfléchir, j'y vais pas, tu n'y vas pas, c'est sûr. Et si tu sais exactement comment ça se passe, tu ne le fais pas non plus parce que c'est une telle prise de risque... c'est tellement flippant en fait que si tu le sais vraiment, non, t'y vas pas.
C'est tout à fait ce que tu m'as fait vivre en venant ici. En fait, quand tu m'as balancé le truc, j'étais là, j'y vais pas, et je ouais. Et après, quand je suis arrivé ici, mais j'avais toujours pas compris ce que je venais faire ici. En fait.
Et bien d'ailleurs, Erwan, il nous reste 5 minutes, chers auditeurs. Finalement, une heure et demie, ça passe aussi très vite. Roman. On pourrait pas avoir 2 heures. Eh, Monsieur Cadbury, on pourrait pas avoir. C'était quoi la pub, Monsieur Cadbury? Il est pas assez long ton finger. Erwan.
Oui.
Ça c'est aussi un souvenir vintage, hein, les pubs Cadbury. Quelle est la boisson pour terminer cette émission vintage? À boire avec modération, évidemment.
Là, ce soir, en sortant, si on devait boire un verre.
Oui.
Un calva.
Non, un bon vieux truc là, de derrière les fagots de avant là. Un truc que je ne boirais plus, mais là, je serais capable de le boire. Un Malibu ananas.
Oh non, oh, bah, là, j'ai l'odeur qui... D'un seul coup, j'ai l'odeur qui remonte
en
narine.
Ouais. Un vieux truc, là, si tu veux, de vintage.
Oh non, là, pitié.
Ça dépend si tu veux boire du vintage ou pas.
Oh, c'était pour donner un conseil aux auditeurs. Personnellement...
Je vais pas... Non, comme on a dit avec modération et tout ça, je vais pas leur donner un conseil à 23h d'ouvrir une bouteille. Mais voilà, s'ils ont une bonne bouteille de vin à côté d'eux, qui est ouverte depuis hier...
Alors c'est quoi une bonne bouteille de vin? Rouge, blanc? Alors
ça,
pour un mois de septembre. Alors donne-nous un dernier conseil, un bon vin de mois de septembre de rentrée.
Ouais, mais un bon vin, ça dépend des gens, tu vois, c'est pareil. Moi, un bon vin pour moi.
Oui.
Moi, là, actuellement, il y en a deux que je kifferais.
Vas-y.
Voilà, il y en a un qui porte très bien son nom, ça s'appelle Jus d'Octobre.
Jus d'Octobre.
Voilà, c'est un corbière. Pas spécialement dans la finesse, mais un peu dans l'élégance. Et,
c'est quoi un corbière?
Corbière, c'est une appellation, en fait. Tu auras plusieurs cépages. C'est très gourmand. Voilà, tu auras du carignan, de la syrah, du grenache. Et c'est un vin qui emmène de la chaleur, mais toute douce, tu vois, qui te remplit tranquillement.
Don de douche.
Voilà, c'est un petit peu la couverture polaire de l'intérieur. C'est joli.
C'est beau.
Oh,
c'est beau, c'est bien.
C'est tellement romantique.
Ouais, dehors, t'as la tempête, t'as ton petit feu de cheminée, t'es bien chez toi. Tu l'as ouvert un petit peu avant, là. Puis tu prends ton petit verre, tranquille. Et là, ça te réchauffe de l'intérieur tout en douceur. Avec modération.
Merci, Erwan.
De rien, c'était un plaisir.
La cave à Jaja à Saint-Martin, en face de l'église de Saint-Martin, qui est en rénovation, ivre et pieux. Hugo Laborie, prof d'impro à la Comédie du Finistère, stage d'improvisation pour les enfants, les adultes,
les entreprises, pas à me contacter.
Metteur en scène qui s'est improvisé metteur en scène cet été avec moi. On reviendra sur la mise en scène une autre fois. Il y a tellement de sujets à aborder sur Radio U101.1 FM. On n'aura jamais assez d'une deuxième saison. Adélie Le Sould, @ les déclamateurs sur Instagram, coach en éloquence, fait résonner, R-A-I, résonner ta voix. Mmh. Adélie, un dernier mot?
Oui. Bah, l'alcool, ça... Tout à l'heure, tu disais, Hugo, qu'on a besoin d'être rassemblés. Je crois que l'alcool est partageur et rassemble aussi les gens, non? Non, ce que je voulais dire par là, c'est...
J'ai dit ça,
très bien.
Trouver des liens quelque part. Non.
Non, c'est convivial, c'est sûr.
Ouais, non, mais oui, alors juste pour raisonner sa voix, parce que quand on parle, on a besoin de penser, et je pense que ce qui peut peut-être nous relier tous les trois, c'est une forme de lâcher prise. L'alcool permet de lâcher prise, l'improvisation permet de lâcher prise, et aller au bout de ses pensées, enfin, pour restructurer ses pensées, ça permet aussi de lâcher prise, et je pense que on a besoin de lâcher prise pour arrêter aussi peut-être de se critiquer les uns les autres, et peut-être, voilà, de se retrouver autour d'activités et de se concentrer que sur l'activité sans pour autant tout le temps aller chercher du jugement. Et je pense que peut-être le meilleur conseil que je pourrais te donner avant ton seul sur scène, cherche pas l'approbation du public, fais-le pour toi et dis-toi dans 24 heures c'est quoi le souvenir que je veux qu'ils aient de moi, tu vois, c'est quoi le message que je veux faire passer et que ces personnes mémorisent de moi dans 24 heures, tu vois. C'est un peu pour moi cette philosophie-là qu'il faut avoir.
Alors, ce que j'aimerais qu'ils mémorisent de moi, eh bien, je le dirai après. Avant, ce que j'aimerais, c'est qu'ils viennent me voir. Ça, pour commencer, j'aimerais bien que le public soit au rendez-vous. Je rappelle, 20h à la Comédie du Finistère, aux Ateliers des Capucins à Brest, de 20h à 21h15, 30, ça dépendra de vous. Hein. On pourra finir même à 22-23h. Si vous me racontez tous, les uns après les autres, vos souvenirs vintage. Et vous, quel est votre souvenir vintage, Hermeline, seule en scène. L'émission de ce soir et toutes les émissions sont en replay sur le site de radio-u.org et en streaming sur toutes les plateformes. Également en vidéo depuis cet été sur ma chaîne YouTube. Bonne nuit les amis, merci de votre écoute et de votre fidélité. À dimanche en 15 et à mercredi à 20h. Bye bye.
Les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.